Excellent réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Suppression de postes, baisse des prestations sociales et des contrats aidés, le gouvernement le martèle pourtant. Un effort considérable est fait en direction des ménages. À quelques heures de la présentation du budget 2019, nous ferons les comptes.
Nous irons aussi à New York où s'ouvre l'Assemblée générale de l'ONU. Donald Trump est arrivé hier soir pour un programme chargé. Il défendra une fois encore l'unilatéralisme.
Donald Trump mis en difficulté dans son pays. Le candidat qu'il soutient pour un poste à la Cour suprême n'est plus accusé de harcèlement sexuel par une, mais par deux femmes.
Et puis, Laurent Wauquiez est invité par Angela Merkel ce lundi à Berlin. À 7 mois des européennes, la chancelière allemande devient utile à la droite française, vous le comprendrez.
Quand la démocratie joue à clash-clash, voici le thème du billet politique de Frédéric Seitz, ou comment la polémique stérile étouffe la politique après ce journal. Un budget 2019 que le gouvernement veut placer sous le signe du pouvoir d'achat. Le projet de loi de finances sera présenté ce matin au Conseil des ministres et l'exécutif aura à cœur de valoriser ces mesures prises en faveur des ménages. Dans son édition du jour, le quotidien Les Échos croit ainsi savoir que l'accent sera mis sur un chiffre, une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros l'année prochaine, grâce à la poursuite de la baisse de la taxe d'habitation et à la suppression des cotisations sociales pour les actifs. L'OFCE évoque plutôt 3,5 milliards de baisse totale. Un chiffre moindre donc, mais Marie Viennot, les quelques mesures promises vont bien produire des effets.
L'an dernier, avec la présentation du budget, Bercy avait innové et distribué un livret du pouvoir d'achat. De couleur jaune poussin, il estimait pour divers profils les gains à espérer en 2018, 2019 et surtout le quinquennat. Pour un couple au SMIC en 2018, le gain devait être de 53 euros en plus par mois, mais 111 euros en 2019. 2019, c'est l'année où les gains de pouvoir d'achat seraient réellement visibles, promettait Bercy à l'époque, parce que la baisse de la taxe d'habitation passerait de 30 à 65% pour 8 ménages sur 10, et parce que la baisse des cotisations sociales serait valable l'année entière et pas quelques mois, comme en 2018. Ces mesures devraient donc être confirmées aujourd'hui. Pour les retraités qui ne sont pas concernés par la baisse des cotisations mais ont vu leur CSG augmenter, le Premier ministre a promis dans le budget 2019 un geste fiscal qui permettrait à 300 000 d'entre eux de ne pas payer la hausse de la CSG. Pour les entreprises, le plus grand changement devrait être la transformation du CICE en allègement de charges permanent. Promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne, cette mesure devrait coûter autour de 20 milliards d'euros, ce qui est colossal. Voilà pourquoi la plupart des ministères seront mis au régime encore l'an prochain. Et voilà pourquoi aussi le gouvernement aura bien du mal à annoncer un déficit en baisse pour l'année prochaine.
Et cette année, rappelons-le, le déficit attendu est de 82 milliards d'euros. Un geste pour les entreprises à hauteur de 20 milliards d'euros, donc l'an prochain, Marie Viennot l'évoquait, contre 6 milliards, voire moins pour les ménages. La différence est importante, d'autant que ces baisses d'impôts n'auront pas un effet direct sur le pouvoir d'achat des Français. Elles seront en partie neutralisées par la hausse de certaines taxes sur le tabac et toujours sur le carburant. L'année dernière, la fiscalité énergétique avait déjà augmenté de 3,7 milliards d'euros. Accroître les impôts sur ce qui pollue, ce n'est pas, selon certains écologistes, une politique ambitieuse contre le changement climatique. Marie Chéron, responsable mobilité à la Fondation pour la Nature et l'homme s'en explique ce matin.
L'augmentation de carburant, ce sera une mesure écologique si, en face, ils nous mettent des investissements dans les alternatives au diesel, qui nous mettent des aides qui permettent d'acheter autre chose que du diesel, que de l'essence, et de sortir des véhicules thermiques. C'est les investissements sur les transports en commun. Donner la possibilité que les déplacements de proximité soient faits autrement qu'en voiture, avec des infrastructures adaptées, c'est une prime à la conversion qui donne un réel avantage prix aux véhicules électriques. À partir du moment où on aura ces solutions sur la table avec des vrais investissements et des vrais moyens financiers, là on pourra parler d'une politique écologique. Mais une politique d'augmentation du prix des carburants qui ne met pas en face les alternatives, ça c'est une simple politique fiscale. En fait, il y a deux choses. Il y a le budget et les mesures qu'on attend dedans. Et d'autre part, il y a le discours politique qui va avec. Il y a besoin d'un discours très clair sur où vont aller les investissements en face. Vous prenez un exemple, la taxe carbone. Il y a une trajectoire de hausse de la taxe. Et d'ici 2022, le montant cumulé des taxes, c'est 27 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 27 milliards d'euros? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des mesures pour réduire la pression fiscale sur les entreprises? Ou est-ce qu'on, justement, on développe les solutions pour les mobilités durables, pour un truc qui coûte très, très cher, c'est la rénovation des bâtiments? Notre demande, elle est là, en fait.
Marie Chéron de la Fondation pour la Nature et l'Homme, interrogée par Marie Viennot. Marie Viennot qui suivra pour France Culture aujourd'hui la présentation de ce budget 2019, annonce dès le journal de midi et demi. Là, il s'agit de trouver de l'argent pour entretenir, pour rénover les infrastructures routières en France. Près de 13,5 milliards d'euros seront investis selon la loi d'orientation sur les mobilités, mais l'argent manque pour ces prochaines années. Le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, étudie donc l'idée d'une vignette poids lourd, une vignette visant notamment à taxer les camions étrangers dont certains ne font que traverser la France, indique François de Rugy. Il évoque une solution pour 2019. Les ordonnances réformant le code du travail ont-elles aidé à baisser le nombre de recours au prud'homme? Elles étaient publiées, ces ordonnances, au journal officiel il y a un an tout juste, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, se félicite déjà de ces effets positifs. Il y a eu moins de recours devant les prud'hommes grâce, dit-elle, à la barémisation des indemnités mises en place par ces ordonnances. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la réelle explication, Anne Lorchouin.
Moins 15% de recours aux prud'hommes entre 2016 et 2017, une forte baisse que le ministère du Travail attribue en grande partie aux ordonnances travail. Le délai est bien trop court pour en tirer des enseignements, estiment en revanche les avocats spécialisés, qui voient mal comment une mesure mise en place il y a un an et concernant les recours postérieure aurait pu avoir un tel impact. Cette baisse, pense-t-il plutôt, est due à une mesure mise en place il y a 10 ans de cela, en 2008, la rupture conventionnelle qui permet de rompre un CDI par accord mutuel, faisant chuter en masse les contentieux au prud'homme depuis cette date. Mais il est vrai que la baisse s'est accentuée depuis 2016. 2016, autre année de réforme prud'homale. En effet, c'est à ce moment-là que les procédures pour saisir le Conseil des prud'hommes se sont fortement complexifiées, nécessitant presque toujours l'aide d'un avocat et décourageant beaucoup de salariés encore en poste ou licenciés de tenter l'aventure. Une réforme incluse dans la loi Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie. Comme dans d'autres pays européens, le but était de réduire les contentieux en matière de droit du travail, but parfaitement atteint. Quant à la barémisation et au plafonnement des indemnités en cas de rupture abusive du contrat de travail, des mesures instituées par les ordonnances de l'année dernière ont-elles, comme certains le craignaient, déplacé les contentieux vers une hausse des demandes de jugement pour harcèlement moral ou discrimination? Cas dans lesquels il n'y a pas de plafonnement des indemnités, c'est trop tôt pour le dire, estiment les spécialistes.
Mais on peut en revanche déjà chiffrer une mesure, la possibilité de faire des ruptures conventionnelles collectives permettant de remplacer les plans de départ volontaires. 86 entreprises seulement l'ont utilisée. Les policiers s'apprêtent à déposer plainte contre Yann Moix aujourd'hui et à saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils s'indignent après des propos de l'écrivain ce week-end sur une chaîne de télévision. Yann Moix a accusé les forces de l'ordre de se victimiser. Des propos intolérables, répond déjà le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Donald Trump entame sa deuxième Assemblée Générale des Nations Unies.
Oui, il est arrivé à Manhattan hier soir. Au total, 130 chefs d'État et de gouvernement se rejoignent à New York pour 3 jours. Et les dossiers ne manquent pas. Programme nucléaire iranien, nord-coréen, réchauffement climatique, guerre en Syrie, famine au Yémen. Le monde a besoin de cette Assemblée, affirmait la semaine dernière le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un avis que ne partage pas forcément Donald Trump, Loïc Glory.
America first, l'Amérique d'abord. Comme l'an dernier, le président américain devrait entonner son refrain préféré devant les dirigeants du monde entier dès mardi matin et suivre son propre agenda au risque de parasiter les débats. Il y a un an, le milliardaire avait ainsi menacé de détruire la Corée du Nord. Qui sait ce qu'il dira cette année? Il aura en tout cas pour cela une tribune idéale mercredi puisqu'il dirigera une séance du Conseil de sécurité consacrée à la prolifération nucléaire. Sauf surprise, la bête noire des États-Unis, l'Iran, devrait donc être l'objet de ces attaques, à rebours des tentatives européennes pour sauver l'accord sur le nucléaire. Mais face aux appels à la retenue, Donald Trump devrait encore faire la sourde oreille, comme pour l'accord de Paris sur le climat, comme lorsqu'il a claqué la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette année encore, l'imprévisible président américain devrait donc être le maître des horloges et pousser au second plan des sujets aussi importants que le réchauffement climatique. Donald Trump, ennemi du multilatéralisme, c'est peut-être bien ça l'objet sujet de cette 73e Assemblée générale des Nations Unies.
Merci Loïc Loury depuis New York pour France Culture. Première rencontre déjà cette nuit. Le locataire de la Maison Blanche s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux hommes ont évoqué la Corée du Nord ainsi que le commerce bilatéral et international. Shinzo Abe évoque une ambiance chaleureuse. Car le japonais espère bien échapper aux surtaxes américaines sur les produits qu'il exporte et notamment dans le secteur de l'automobile. Depuis cette nuit, son voisin chinois en fait les frais. 200 milliards de dollars d'importations chinoises sont désormais taxés à hauteur de 10%. Pékin devrait répliquer en taxant 60 milliards de produits américains. Pékin qui publie par ailleurs aujourd'hui un livre blanc dans lequel le gouvernement chinois dit vouloir poursuivre les efforts pour régler les différends commerciaux avec les États-Unis, tout en accusant de harcèlement ces mêmes États-Unis. Pendant ce temps, en interne, Donald Trump est un peu plus chahuté, probablement gêné par de nouvelles accusations publiées hier soir. Elles visent le candidat à la Cour suprême que Donald Trump soutient, le juge Brett Kavanaugh. Il est mis en cause par une deuxième femme qu'il accuse d'inconduite sexuelle au début des années 80, Pauline Simonet.
La nouvelle accusation remonte à la première année d'université de Brett Kavanaugh à Yale. Une femme, Deborah Ramirez, décrit dans le New Yorker une soirée très arrosée où il se serait dénudé devant elle, la contraignant à toucher son sexe. Des accusations prises au sérieux par l'opposition démocrate qui appelle le FBI à enquêter. C'est un nouveau coup de massue pour le candidat de Donald Trump à la Cour suprême qui a fermement démenti les deux accusations. Il devra se préparer dans un climat encore plus tendu à répondre à la première accusatrice, Christine Ford, qui va témoigner publiquement ce jeudi devant le Sénat. Le très conservateur Brett Kavanaugh dénonce un complot démocrate pour empêcher sa nomination. Autour de ces accusations, les deux camps se livrent un véritable bras de fer. Les républicains veulent désigner le nouveau juge de la Cour suprême avant les législatives de début novembre, où ils risquent de perdre leur majorité au Sénat. Mais certains mettent en garde contre un passage en force, l'électorat féminin étant décrit comme déterminant pour ce scrutin.
La coalition allemande est parvenue à un nouvel accord sur le sort de Hans-Georg Maaßen, ancien chef des services du renseignement intérieur. Accusé de complaisance avec l'extrême droite, il avait été promu au ministère de l'Intérieur allemand. Et bien contrairement à ce qui avait été convenu, son salaire ne sera finalement pas revalorisé. Cela avait provoqué l'incompréhension d'une partie de l'opinion publique. Outre Rhin encore, Angela Merkel va recevoir aujourd'hui Laurent Wauquiez au siège de son parti, la CDU. Une rencontre inédite, car s'il avait croisé la chancelière, le patron du parti Les Républicains n'avait jamais été invité officiellement à Berlin. Et la date n'est pas anodine, à l'approche, Pascal Thibault, des élections européennes.
Les questions européennes figureront très probablement en bonne place de la rencontre entre Angela Merkel et Laurent Wauquiez, et notamment leur position à l'égard du Premier ministre hongrois Orban, dont le parti siège avec les Républicains et les Chrétiens-démocrates allemands, au sein du groupe conservateur PPE au Parlement européen. Lors du récent vote de la résolution demandant au Conseil européen de se prononcer sur l'état de droit en Pologne, les élus républicains s'étaient divisés. Laurent Wauquiez avait assuré que Viktor Orban avait toute sa place au sein du PPE. Les élus de CDU, eux, ont presque tous voté pour la résolution du Parlement européen. Le Premier ministre Orban est en conflit depuis 3 ans avec Angela Merkel sur la politique migratoire. La position de Laurent Wauquiez sur cette question, sur l'immigration ou sur l'Europe, diffère de celle d'Angela Merkel. Le rendez-vous de ce lundi a été difficile à caler et donnera lieu à une déclaration de Laurent Wauquiez en amont. D'autres visiteurs de la chancelière avaient rendu compte après coup de leur entretien. Le président des Républicains est sans doute sur le positionnement à l'égard de Viktor Orban comme sur d'autres questions plus proches de la CSU du ministre de l'Intérieur Horst Seehofer. Les parlementaires du parti bavarois ont voté à Strasbourg contre la résolution hostile à leur allié Orban, régulièrement invité par la CSU. Tous sauf le patron du groupe PPE, Manfred Weber, qui vient d'annoncer sa candidature pour mener la liste de son parti lors des prochaines élections européennes et succéder en cas de victoire à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission.
Pascal Thibault, correspondant à Berlin de RFI pour France Culture. Il s'agit pour eux de quitter l'Union européenne. Les militants britanniques du Labour sont nombreux à vouloir un second référendum sur le Brexit. Ils l'ont dit ce week-end lors du congrès du Labour à Liverpool. Leur chef de file, Jeremy Corbyn, se pliera à la majorité, a-t-il dit, estimant qu'il fallait à ce stade convoquer des élections législatives. Les négociations du Brexit sont dans l'impasse, disait vendredi dernier la première ministre Theresa May. Et puis en bref encore, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, l'Aquarius, devrait perdre son pavillon panaméen dès qu'il accostera dans un port. Les autorités maritimes du Panama l'ont annoncé hier, alors que le navire humanitaire sauvait des migrants en Méditerranée au large de la Libye. 58 survivants se trouvent actuellement à son bord. SOS Méditerranée donnera une conférence de presse cet après-midi. Sachez par ailleurs que l'Aquarius est actuellement le dernier bateau qui opère en Méditerranée pour porter secours aux migrants tentant la traversée. Excepté quelques pluies sur les Pyrénées ce matin, le temps sera globalement sec ce lundi. Les nuages sur le nord-est du pays devraient laisser leur place à de belles éclaircies. Du soleil encore sur le sud-est, en proie à une importante sécheresse d'ailleurs en ce moment. Côté température, les minimales sont très fraîches, avec 12 degrés à Besançon ce matin, 13 à Lille, 14 en Bretagne et à Paris, 14 degrés aussi à Bordeaux et à Lyon, 20 degrés à Marseille, 26 à Nice.